Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet.
On jardine avec Jean-Louis jusqu'à 10h et ses bons conseils au 05 53 53 82 82. Jean-Louis, vous avez ce matin un coup de cœur pour une belle vivace géranium hybride Platypétalum Johnson Blue.
Oui, il faudra réviser un peu, monsieur. Oui. Platypétalum, en latin, ça veut dire large pétale.
Mais bien sûr.
Si on regarde la photo sur le Facebook, on comprend de suite. C'est vraiment une très belle floraison. Alors, c'est un vrai géranium vivace. Il est très récent dans nos jardins. S'il a été hybridé dans les années 50, il est issu d'un croisement entre deux géraniums d'espèces type, c'est-à-dire des géraniums purs. Attention, les géraniums pour les jardinières et autres contenants sont tous des pélargoniums. Je m'explique. Il va falloir retourner en arrière et avoir fait un peu de langue morte dans les années 60 ou 70.
Oui.
Les géraniums vivaces sont un fruit en forme de bec de grue, géranos en grec. Les pélargoniums ont un fruit en forme de cigogne, pélargos en grec. Donc, les géraniums vivaces, comme celui de la photo, poussent en pleine terre et restent vivaces. Les pélargoniums, faussement appelés géraniums, sont gélifs, sauf si on les rentre, bien entendu. Revenons à notre beau géranium Johnson Blue. Voilà une belle vivace couvre-sol avec des fleurs bleu clair teintées de violet. Très rustique, moins 25 degrés. Enfin, un de ses parents génétiques pousse sur les coteaux de l'Himalaya. Donc, on va dire que moins 25, ça ne lui fait pas peur. Floraison démarre début avril, fin mars. Ça dépend un petit peu de la sortie de l'hiver. Et surtout, ça va jusqu'au gelé. Le feuillage est caduque. Alors, on n'hésite pas, en février-mars, on arrive vers son géranium, on prend le sécateur et on le rase. Il ne restera rien, de toute façon. Les tiges ont séché. Mais surtout, on découvre au sol une multitude de petits rejets. Du coup, c'est simple, on prend la bêche, on divise et on en met un petit peu partout. Ça sera une très belle association si vous le plantez près de rosiers à fleurs pâles, par exemple, parce qu'il va cavaler un petit peu, il est couvre-sol, mais s'il peut s'agripper, il va monter. Il va se mélanger avec les fleurs, c'est joli. Ou alors, ce qui est top, je l'ai fait par le passé dans un jardin dont je m'occupais, je l'avais mis entre des hydrangea paniculata, c'est-à-dire ces beaux hortensias blancs avec les fleurs longues, qui ressemblent à des fleurs de lilas. Et là, le blanc et ce bleu-là, c'était juste magnifique. Succès garanti. Au mois de mars, je les ai trouvés engodés à 2 euros. Je vous ruine pas sur le coup-là. En ce moment, en 3 litres, j'en ai vu cette semaine à 10, 12 euros. Bon, ça vaut le coup d'attendre le mois de mars parce qu'à 2 euros, on peut en prendre quand même pas mal. Distance entre chaque 40 cm. Vous trouvez également en ce moment un autre géranium qui est de la même lignée dont le cultivar s'appelle Rosanne. Et bien ce fameux géranium Rosanne, lui, il a été élu plante du siècle, s'il vous plaît, en 2013 par un jury anglais. Après, ça reste un jury anglais. Moi, je préfère ce Johnson Blue qui a un bleu vraiment un petit peu unique au jardin, très spectaculaire. Et puis, d'un point de vue coût et d'un point de vue entretien, ça va bien.
Oui.
Oui.
Ah non, je croyais qu'on vous avait perdu.
Non,
ça va bien. Donc tout va bien.
J'ai des coupures. Ça, je sens bien que le réseau n'est pas fluide ce matin.
Mais oui. Car vous êtes en liaison connectée avec nous grâce à 15 000 satellites qui tournent autour de la Terre.
Ah bah.
Vous avez parlé d'études de latin tout à l'heure. Moi, la première phrase que j'avais apprise en latin, c'était « Homo arbores serit, l'homme plante des arbres ». J'étais donc né pour être avec vous et parler jardin.
Bonum vinum, ça compte pas ?
Pardon ?
Bonum vinum, ça ne compte pas ?
Bonum vinum, non, du tout, ça doit pas être bon ce coup-là. Jean-Louis, le jardinier, répond à vos questions ce matin, 05 53 53 82 82.
On jardine le dimanche sur France Bleu Périgord jusqu'à 10h.
L'album Pour nos vies martiennes en 88 a été certifié disque de platine. Parmi les titres issus de cet album, celui-ci, Bleu comme toi, voici Étienne Dao.
Yeah.
Toi avec Étienne Dao.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord. Christophe Pastet.
Votre jardin, vos plantes et vos questions à Jean-Louis au 05 53 53 82 82. Jean-Louis, nous sommes à Chantérac. Guy, bonjour.
Bonjour Christophe et bonjour Jean-Louis.
Vous avez des plantes originales chez vous, Guy. Vous avez des orchidées à trous.
Un orchidée à trous, exactement.
Racontez-nous ce qui se passe.
Je me suis aperçu la semaine dernière que, en arrosant mes orchidées, qu'il y avait un trou dans une feuille sur un seul de mes orchidées. Et donc, j'ai pas pu faire une photo et l'envoyer à Jean-Louis pour qu'il me dise.
Voilà, vous pouvez envoyer vos photos, je le rappelle, à bleuperigord@radiofrance.com. Bon réflexe, Guy.
Alors, oui, Jean-Louis. Pas les photos de vacances, hein, les photos de plantes.
Hein. Oui, évidemment.
Voilà. Bon, alors Guy, vous avez bien fait d'envoyer la photo, parce que si on est sur la première idée de se dire, ah ben voilà, j'ai des trous dans les feuilles, tout de suite on pense aux limaces. Même si c'est une orchidée qui est à l'intérieur, il pourrait très bien y avoir une limace qui se planque dans le substrat ou en dessous le pot, c'est possible. En l'occurrence, c'est pas ça du tout. Et il y a plein de choses qui ne vont pas. En fait, la photo, la première, elle est intéressante parce que on peut diagnostiquer plein de choses. Je m'explique. La feuille, elle a quelques trous. On voit bien que les trous, il y en a d'autres qui vont arriver. Par transparence, là, on voit que la chlorophylle commence à disparaître à certains endroits. La grande feuille est bordée d'une petite trace rougeâtre. Celle qui est à droite, elle est desséchée, noircie. Alors là, vous avez un comportement qu'on va qualifier de maladie de faiblesse. C'est-à-dire que c'est une orchidée qui va pas très bien. Et je pense pouvoir diagnostiquer pourquoi. D'abord, ces variétés, là, les Phalaenopsis, ces belles orchidées papillons, elles n'aiment pas être dans des pots opaques. En l'occurrence, oui. J'ai l'impression que c'est pot opaque.
C'est
première chose. Elle n'est pas en fleur.
Non.
Non, alors qu'elle devrait être en fleur. Là, oui, février, mars, avril, mai, c'est pour elle, c'est vraiment le bon moment. Vous la mettez dehors en été ou pas?
Non, pas du tout. J'ai entendu l'autre jour que vous disiez qu'il fallait mettre de mai à septembre dehors, oui.
Oui, oui. Alors, le mois de mai, évidemment, hein, ça dépend de la météo. Hein. Si c'est aussi froid que l'année dernière, on attend fin mai. S'il fait bon, à partir du 10-15, on peut tenter. Et puis, autre chose, quand elle a été rempotée, alors je sais pas si c'est un vrai mélange terreau-orchidée qui a été utilisé, ou si vous en manquez un peu, puis vous êtes allé chercher une poignée d'écorce dans le jardin. Je me trompe ou pas?
Non, je l'ai jamais, rempotée, celle-ci. J'ai acheté des écorces spéciales orchidées. Par contre,
oui, d'accord. Alors, en fait, dans ce mélange spécial orchidée, il n'y a pas que des écorces, hein, il y a de la laine de roche, enfin, il y a différents débris végétaux, etc. Alors, l'urgence, ça va être très simple. On va arrêter de faire le poinçonneur des lilas et de faire des trous partout. Hein. La grande feuille qui est percée, avec un cutter, vous me l'enlevez. Ça ne reviendra pas, de toute façon. Et puis, moi, je la rempoterai. Alors, la rempoterai, vous allez acheter un pot transparent, puisque ces variétés d'orchidées ont des racines qui synthétisent la lumière également. Donc, c'est très important, un pot transparent. Terreau orchidée, de bonne qualité, alors pas une sous-marque, hein,
plusieurs... Une vraie marque.
Voilà, c'est ça, hein, on fait attention à ça. Vous la rempotez, vous lui mettez deux, trois petits tuteurs pour pouvoir la tenir, parce que souvent, elles sont un peu branjolantes, comme on dit, là, dans le pot, on sait pas de quel côté elles vont tomber. Quand vous l'arrosez, vous la faites tremper dans de l'eau à température ambiante, dans laquelle vous mettez quelques gouttes d'engrais orchidée, ça lui ira très bien. Et puis, à partir du mois de mai, allez, hop, en fonction de la météo, dehors à l'ombre, Alors, entre des hortensias, dans un sous-bois, où vous voulez, mais pas de soleil direct, bien sûr. Et puis du coup, vous mettez un petit peu d'antilimace autour, parce que là, elle sera la bienvenue pour ces nouvelles amies-là. Donc, c'est juste des mauvaises conditions de culture, c'est pas des limaces, rien de dangereux. Il était temps quand même d'appeler, parce que en même temps que je vous parle, je vois la feuille qui est derrière, qui commence à se décolorer aussi.
Oui,
donc,
oui.
Voilà, il est temps de faire quelque chose, Guy.
Merci beaucoup.
Bonne journée néanmoins à vous.
Merci. Merci à tous les deux. Bonne
à bientôt. Vos questions jardin ce matin à Jean-Louis 05 53 53 82 82.
On jardine le dimanche sur France Bleu Périgord avec les menuiseries Segui, portes et fenêtres fabriquées ici, installées par nos partenaires menuisiers. Rejoignez-nous sur menuiserie-segui.fr.
Son premier titre, Ce qu'on était, est devenu numéro 1 des ventes en moins de 24 heures. Voici Pierre Garnier.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir, et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai. Chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné, pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder. Je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas.
Ce qu'on était, Pierre Garnier.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord.
Avec les bons conseils de Jean-Louis, nous sommes à Périgueux. Edith, bonjour.
Bonjour Christophe.
Oh mais Edith, vous avez le plus bel amandier du quartier.
Oui, pareil, mais malheureusement, il ne donne rien.
Ah, oui. Il donne rien.
Il a bien produit la première année, ouais. Il fleurit magnifiquement tous les ans, mais c'est tout.
Et oui. Cette année, rien de rien?
Rien, il a fleuri. C'est
donc
tout.
On ne regrette rien, Edith.
Oh, oh, oh. Comment voulez-vous que je rebondisse là-dessus, moi, Christophe?
Non, intéressez-vous au cas de l'amandier.
Oui,
s'il vous plaît.
Ben, je vais m'y intéresser. Alors. Première question, alors là, ça va être une rafale de questions, Edith.
Oui.
Vous l'avez acheté où, cet amandier?
Chez le grand à Gourdon, là-bas, je ne sais plus
d'accord.
Trop comment ça s'appelle.
Oui, une jardinerie, pas dans une pépinière.
Une jardinerie, voilà, oui.
D'accord.
Oui.
Ensuite, de quoi lorsque vous l'avez acheté, on ne vous a pas conseillé d'en mettre deux?
Non, Je ne l'ai pas fait tout de suite, mais je l'ai fait quelques années après.
Oui, oui mais le choix de la variété n'est pas bon. Alors, je vais tout reprendre dans l'ordre. Sur votre mail, avec la photo, vous me dites que vous mettez du Végédor actif.
C'est ça.
Ça, c'est très très bien. C'est un amendement, c'est pas un engrais, hein, pour information.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nourrit le sol de façon à ce que l'engrais que vous mettrez plus tard soit bien retenu et bien distribué à la plante. Alors, il est vrai que ça va libérer des sels minéraux, hein, cet amendement, mais pas suffisamment pour nourrir correctement le végétal. D'autant plus que au pied de vos amandiers, il n'y a pas de carré de bêchage, c'est-à-dire que là, la pelouse vient jusque sur le tronc, c'est pas l'idéal. Ça serait bien qu'il y ait un carré de bêchage de 60 par 60 pour pouvoir apporter correctement et le Végédor, l'amendement en hiver et l'engrais au printemps, de façon à ce que la plante en profite pleinement et puis surtout de pas risquer d'esquinter lorsqu'on passe la tondeuse, de ne pas blesser le tronc. Ça, c'est une chose. On va reprendre les choses dans l'ordre pour les amandiers. En règle générale, un amandier qui ne donne pas, il y a plusieurs raisons. Soit la pollinisation a été mauvaise. Alors, les raisons sont multiples, elles sont météorologiques principalement. On se rappelle tous que les amandiers fleurissent très tôt au printemps. Donc, évidemment, ils sont sujets à prendre les coups de vent, la flotte, la neige, le gel. Donc, on va dire que tout est un peu contre eux. Le manque d'abeilles, il faut se rappeler aussi que c'est les premières fleurs du printemps. Et quelquefois, ils fleurissent tellement tôt qu'il n'y a pas suffisamment d'abeilles pour aller travailler. Ça, c'est important. Mais surtout, et c'est là où vous avez été mal conseillé au moment de la plantation, quand on plante un amandier, ça se plante en couple. Alors, les variétés sont variées. Il y a une variété qui est quasi obligatoire qui s'appelle Ferragne. Et la dénommée Ferragne, elle pollinise tous les autres copains. Texas, Ali, Princesse. Princesse est auto-fertile, mais enfin, si elle a un copain à côté qui apporte encore plus de pollen, ça optimise pas mal. Donc, première chose qui n'a pas été faite, ça, c'est pas terrible. Ensuite, de quoi ? Les amandiers, les deux premières années, ça se taille, c'est-à-dire qu'on les laisse fleurir. Tant pis pour les quelques amandes qui peuvent arriver, ma foi, non. Après la floraison, on rabat les tiges de 30 à 40% pour qu'on ait un bosquet. Sur une des photos, là, il y a un amandier qui fait bien 3 mètres ou 3 mètres 50.
Oui, c'est ça, voilà. C'est
au bout de 5 ans, moi, j'ai travaillé dans un domaine où j'en avais quelques-uns. Au bout de 5 ans, il faisait pas plus de 3 mètres, mais il faisait presque 3 mètres de large. C'est ça la différence aussi. Donc, la taille après la floraison, les deux premières années. Après, c'est plus qu'une taille d'entretien pour éliminer les branches qui se croisent, etc. Et surtout la fertilisation. Et là, la fertilisation, elle est difficile à faire puisque vous avez le gazon qui vient jusqu'au bord. Et la fertilisation, c'est au mois de février, on apporte un engrais qui ne comporte pas d'azote. On apporte un engrais phosphopotassique que vous trouvez dans tous les points de vente sous l'appellation engrais de fond. Donc, il y a tout un processus à remettre en route. Moi, je dirais que le premier processus, là, ça serait de faire le tour rapidement dans les magasins, voir si vous retrouvez un amandier Ferragne. Si vous n'en trouvez pas, vous en planterez un après la Toussaint. Hein. Ils sont en général vendus en conteneur. Et ça va rééquilibrer ce manque de pollen pour que la pollinisation croisée soit la plus importante.
Par contre, je l'ai marqué, je crois, dans mon mail. J'ai acheté après un deuxième amandier qui est celui-ci autopollinisant. Et là, celui-ci fonctionne très bien.
Alors, il fonctionne très bien. Je me permets juste de revenir sur, parce que j'ai la photo également. Alors, il a juste l'intérêt de vous donner, il va vous donner quelques amandes, mais en aucun moment, il va contribuer à améliorer le copain qui est à côté.
Ah bon?
Non. Ah non, il est auto, c'est-à-dire que lui, se débrouille, il fait le pollen qui lui correspond. Voilà. En plus, d'un point de vue forme, il commence à être un petit peu bancal. Alors bon, quand là, c'est plié pour cette année, vous allez profiter des quelques amandes qu'il y a dessus, hein, très bien, mais quand on sera rendu au mois de février l'année prochaine, quand il commencera à démarrer, vous lui redonnerez une forme plus régulière et puis surtout, au pied, s'il vous plaît, dites un carré de bêchage que vous découperez la 60 par 60 à minima. D'accord. Pour pouvoir correctement apporter votre produit magnifique, là, qui est le Végédor actif que vous mettez au mois de janvier-février. Alors là, c'est vraiment un amendement génial pour le sol et l'engrais derrière.
L'engrais en même temps ?
Non, un mois après.
Un mois après, d'accord.
Oui. D'abord, on s'occupe du sol, le garde-manger, et après, on remplit le garde-manger.
Et je taille les deux, alors.
Ah oui, de toute façon, oui. Là, il va falloir faire maintenant, quelque chose. Non, plus maintenant. Là, ça sera l'année prochaine, au démarrage de
même
la végétation.
Même le grand, je ne taille même, pas maintenant.
Ouais, non. Là, c'est trop tard maintenant.
Essayez de trouver l'engrais, c'est tout.
Voilà, je vois qu'il y a un grand terrain. Essayez de trouver un amandier ferragne et ça va résoudre beaucoup de problèmes.
D'accord.
Voilà, Edith.
Merci beaucoup, Jean-Louis.
Un bon dimanche à vous. Merci à Périgueux. Dans un instant, Jean-Louis, nous serons à Bézonec, nous occuper de l'iris de Christiane.
Meitasse, Meitapor, les Michiou Occitano des Franches Bleu Périgord.
Ce dimanche, à partir de 11h, notre invité sera Gauthier Lagalaille, nouveau directeur de l'OPLO, l'Office public pour la langue occitane. Il nous parlera de cette institution qui soutient et renforce les politiques partenariales en faveur de la langue occitane. Gauthier nous parlera également de tout son travail ainsi que des perspectives à venir. La institution son forche dans mon occitana, je franche bleu périgord.
Meitasse, meitapor, les michiou occitano des franches bleu périgord.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Périgord, ici, on parle d'ici.
Dans votre jardin, il est 9h30, c'est Jean-Louis qui répond à vos questions jusqu'à 10h au 05 53 53 82 82. Comme promis, Jean-Louis, nous allons à Bézonac. Christiane, bonjour.
Oui, bonjour Christophe.
Que se passe-t-il, Christiane? Vous avez votre iris qui bat de l'œil?
C'est-à-dire que mes iris prêts à fleurir, la tige est coupée net à la moitié hauteur.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Je regarde tout autour, je ne vois rien.
D'accord.
Aucune bestiole, rien.
Oui. Quand vous dites qu'elle est coupée net, c'est comme si c'était un coup de sécateur ou est-ce que c'est un petit peu mâchouillé?
Non, c'est comme un coup de sécateur avec un couteau bien aiguisé, bien net.
Ah oui, d'accord, parce que alors ça, c'est un peu surprenant. C'est-à-dire qu'en règle générale, sur l'iris, on a un insecte un petit peu spécifique, c'est un papillon qui vient pondre, et il pond une espèce de petite chenille qui va boulotter la tige de l'iris, mais bien évidemment, ce sera pas net du tout, ce sera pas coupé complètement net.
Coupé là, net, c'est net, hein.
Oui, il n'y a pas de chevreuil qui rentre dans le jardin.
Ah non, on s'est clôturé.
Alors ça, là, vous me posez une colle. Vous me posez
une colle. J'ai beau regarder tout autour, je ne vois rien du tout.
D'accord. Il n'y a pas de trace sur la tige. Vous savez, comme quand les limaces passent, elles laissent une traînée de mucus. Là, vous n'avez rien dessus non plus.
Rien.
Alors là, ça se corse.
Oui, ça, comme on le dit, ça se corse.
Oui.
Non, là, je suis collé. J'ai pas de réponse parce que j'étais persuadé, moi, de vous proposer cette petite mythe de l'iris, là, un petit lépidoptère qui est pendu.
Et en admettant, si c'était la mythe de l'iris, qu'est-ce qu'il y aurait à faire?
Ah, c'est simple. Comme là, on est dans le monde des chenilles, on traite avec le même produit que la pyrale du buis, on pulvérise de la tête aux pieds dès ce matin si vous voulez et vous allez empoisonner la chenille. Mais maintenant quand c'est cette chenille là, alors c'est coupé, pas net comme un coup de couteau, mais on trouve quand même des petites, comme si ça avait été mâchouillé un peu, et puis des petites galeries parce qu'il faut bien que la chenille boulotte. Et vous retrouvez la tige qui a été coupée, vous la retrouvez au pied ou pas?
Par terre.
Ah ouais, alors on va quand même garder cette idée-là. Si vous avez le produit pour le ver du poireau ou la pyrale du buis, c'est le même, et bien vous faites un traitement dès ce matin.
Oui, et Jean-Louis, l'année dernière, au niveau des iris, vous aviez, parce que quand on achète les iris, ils disent qu'il faut absolument rien mettre, et l'année dernière, vous aviez conseillé un engrais.
Alors, on met juste un engrais organique, surtout pas d'engrais minéral. En fait, l'iris, il aime bien s'adapter au terrain dans lequel il se trouve. Globalement, ça pousse à peu près partout. Ça s'en sort plutôt bien. Et c'est un engrais organique sous forme de pelée. C'est un engrais que je parle souvent parce que c'est vraiment un passe-partout. Moi, je le mets aux citronniers, aux tomates, aux arbustes et ça va très bien dans le jardin. C'est un engrais qui se libère tout doucement. Maintenant, le mettre à cette époque, c'est un petit peu tard parce que votre iris est en pleine végétation.
Oui.
Donc il faudra y penser l'année prochaine, au mois de février, fin février, quand les iris redémarrent et repartent tout doucement.
D'accord.
Des petits trous tout autour, et puis on va y incorporer directement le granulé.
C'est du granulé organique.
Granulé organique sous forme de pelée. Vous avez ça dans tous les points de vente spécialisés.
D'accord, ok. Ok,
voilà. je vous remercie beaucoup, et puis vous nous tenez au courant.
Merci beaucoup de vos bons conseils.
Voilà, j'espère que ça va fonctionner.
Bon dimanche merci, à Bézonac, Christiane, au revoir.
Bon dimanche à vous aussi, merci aussi.
Votre jardin, vos questions à Jean-Louis ce matin jusqu'au 05 53 53 82 82. J'ai une question pour vous, Jean-Louis, mais avec un. C'est à propos d'un jardinier qui a également chanté. À vous de l'identifier. Il a chanté l'amandier, la mauvaise herbe, une jolie fleur auprès de mon arbre, les lilas, le verger du roi Louis, la marguerite, le grand chêne.
Oh, ça commence par Georges, non?
Et ça se finit par Brassens.
Oh ouais, j'ai gagné.
Toutes les chansons de votre vie sont ici, sur France Bleu.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confité or, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Les copains d'abord avec le grand Georges Brassens.
9h-10h, on jardine sur France Bleu Périgord.
Avec Jean-Louis et ses bons conseils, nous allons à Sorges saluer Gauthier, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour Jean-Louis.
Vous arrivez.
Bonjour à toute l'équipe bonjour jardinier, aux jardinières.
Georges Brassens savait chanter le radis et vous, Gauthier, vous n'arrivez pas à le faire pousser.
Et non, non, j'ai tout essayé de différentes terres, du pourtant de l'aménité, du compost, du terreau, tout ce qui est faisable. Le radis, normalement, c'est la chose la plus simple à pousser. J'ai réussi à avoir une année sur 2 ans depuis que je suis ici, parce que je viens d'arriver dans la région. Sur 2 ans, j'ai dû avoir une dizaine de radis qui a poussé tout près de mes fraisiers dans du fumier de vache qui est déjà bien utilisé. Et autrement, c'est pas possible. Pourtant, j'arrose suffisamment, ni trop, ni trop peu.
D'accord.
Oui, dans une jardinière, j'avais mis du terreau, et puis ils sortent en feuilles. J'ai essayé plusieurs sortes de radis.
D'accord. Sais quoi faire. Alors, d'abord, un petit rappel. C'est des radis ronds ou des radis demi-longs?
Alors, ce sont des demi-longs. Les demi-longs, j'ai essayé avec les ronds. Donc, les longs enfoncer les semences un peu plus et les ronds plus en surface.
C'est ça. Alors, carrément, le rond, c'est même en surface. C'est-à-dire qu'on ne se casse pas la tête de l'enfouir. Il est semé sur le sol. On tasse avec le dos du râteau, on arrose et ça y est, c'est suffisant. Donc ça, c'est déjà important. Rappelez-vous d'une chose, c'est que le radis, il n'aime pas du tout les sols dans lesquels on a pu mettre un compost de jardin dans lequel il y a beaucoup de larves d'insectes. Hein. C'est aussi le but, c'est la biodiversité. Mais le radis, ça, il n'aime pas trop ça. Donc d'abord, moi, je mettrais mes radis dans un endroit où il n'y a pas eu d'apport de fumier. Surtout, ne mettez pas de cendres de cheminée, de cendres de bois dans votre jardin. Ça fait une pellicule. Ça va pas trop non plus. Alors, dernière chose, moi, je vais vous donner juste un petit conseil. En magasin de jardinage ou en coop agricole, vous allez acheter un sac de tourbe blonde non enrichie, tourbe blonde ordinaire. Grosso modo, ça va vous coûter de mémoire 20 euros les 100 litres. Il est entendu que vous n'allez pas utiliser 100 litres de tourbe pour les sachets de radis. Mais vous allez procéder comme je vais vous le dire, et puis peut-être que vous nous appellerez dans 3 semaines, un mois, pour nous dire que vous avez acheté du beurre salé et du bon pain pour pouvoir démarrer le repas avec les radis qui arrivent.
Donc,
un endroit où sur 1 mètre carré, là où il y a eu la motobêche de passé, ou là où le sol a été décompacté d'une manière ou d'une autre, vous donnez un coup de griffe pour éliminer les racines et les cailloux. Vous mettez, alors la tourbe, vous savez, elle a été compressée pour être mise dans le sac, donc vous la défaites bien avec vos 2 mains là pour qu'elle parte en morceaux. Vous en mettez une belle couche, c'est-à-dire droit 4 cm en surface, un coup de griffe pour l'incorporer et vous faites votre semis, alors ou en ligne à 1,5 cm de profondeur, 1 cm pour les graines de radis demi long, ou en surface pour les graines de radis rond. Vous arrosez de façon à vraiment bien tasser la terre, et puis ensuite de quoi, en fonction de la météo, quasiment tous les 3-4 jours, vous allez arroser. Éventuellement, compte tenu des températures de la semaine qui arrive, là, vous pouvez mettre un petit plastique par-dessus, parce que ça va pas encore être bien chaud le matin, donc même si la germination du radis se fait à basse température, ça va aller. Vous n'apportez pas d'engrais, vous ne mettez que cette tourbe en surface que vous griffez pour qu'elle soit mélangée à la terre de surface, et d'un seul coup, ce radis ne va pas être asphyxié par l'argile présente dans le sol et va développer ses racines très rapidement. Éventuellement, alors on sait bien, tous les jardiniers le savent, quelquefois, les radis là du mois de mai, parce qu'en ce moment maintenant, vous les mangerez pas avant le mois de mai, bien entendu, mais juin, ils ont souvent des petits trous dans les feuilles, c'est de l'altisse. Bon, c'est pas plus embêtant que ça, parce que le cycle du radis, c'est 3 semaines et demie, 4 semaines, grand maximum. Souvent, on commence à les manger quand l'insecte est vraiment prédominant, donc c'est pas plus embêtant. Faites ça, de la tourbe, 3-4 cm, un coup de griffe pour mélanger à la terre, un arrosage bronzage plombant. Et puis, dans 3 semaines et demie, on se donne rendez-vous dans 3 semaines et demie, 1 mois. Premier radis, feu d'artifice, comité de quartier, fête au village.
Voilà.
J'aimerais bien. Mais j'avais essayé avec du terreau simple dans une jardinière, comme je disais, il y a 1 centimètre de feuilles qui sont sorties, puis c'est fini, quoi.
Ouais, d'accord. Donc, non, ça va pas. À la limite, s'il vous reste des graines de rond et de demi-long, eh ben, vous en mettez un petit peu de chaque pour voir quel sera le meilleur comportement.
D'accord.
Voilà,
une autre question, mais très rapide. J'ai du purin d'ortie de l'année passée. Est-ce qu'on peut encore l'utiliser?
Oui, mais en arrosage. Vous le mettez pas en pulvérisation, vous en refaites un pour pulvériser sur vos tomates, pour booster les végétaux, sans problème. Mais là, vous le délayez, vous vous en servez en arrosage, au pied des plantations qui ont été faites récemment, il y a aucun souci, mais pas en pulvérisation.
Voilà, Gauthier.
Merci pour vos renseignements, passez une bonne journée, merci pour votre émission, super.
À Sorges, nous allons à présent à Chancelade. Brigitte, bonjour.
Oui, bonjour Christophe, bonjour Jean-Louis.
Vous avez un souci avec votre mirabellier.
Voilà. J'ai un très très beau mirabellier qui doit avoir, je crois, entre 20 et 22 ans. Mmh. Donc il a un tout petit tronc, mais vraiment minuscule. Mais il fait au moins 6 ou 8 mètres de haut. Il est très beau. Et cette année, on s'est rendu compte que sur la droite, sur la moitié du mirabellier, il n'y a pratiquement aucune feuille. Mmh. Ou très très peu. À gauche, les feuilles, elles sont toutes abîmées. Comme elles sont, comment dire, flétries. Mmh. Et à l'arrière, il y a une partie, elles sont à peu près normales. Il y a peut-être 20% sur l'arbre où les feuilles sont à peu près normales. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est une maladie ou alors est-ce qu'il est trop vieux? Parce qu'il doit avoir à peu près 22 ans. Donc, je ne sais pas la durée de vie d'un mirabellier non plus.
Alors, ça dépend de son exposition, mais quand vous me dites
alors,
que son tronc...
Alors, il est en plein soleil, alors je peux le dire, mais il est en plein soleil toute la journée.
D'accord. Mais quand vous me dites que son tronc est resté très fin, c'est déjà une anomalie. Un mirabellier, un prunier qui a 20-22 ans, je peux vous dire qu'il y a déjà un tronc de belle dimension où il faut les deux mains pour faire le tour, minimum.
Là, si vous voulez, à la base, la base, il fait peut-être 50 cm à la base. Hein. Mm-hmm. C'est tout petit. Et après, il a des branches qui partent. Il a déjà été taillé plusieurs fois parce que sur le côté, il a beaucoup de branches. Et même l'année dernière, il a eu tellement de fruits qu'il y a une branche, une grosse branche qui s'est carrément cassée.
D'accord. Il donnait tous les ans. Il donnait tous les ans ou de façon plus désorganisée?
Il donnait tous les ans jusqu'à maintenant, sauf quand il y a eu en 2020-21-22 où il y a eu le gel. Donc là, ils n'ont rien donné. Mm-hmm. Mais sinon, avant, ils donnaient mais énormément. Et d'accord. En plus, c'est de la mirabelle qui est vraiment très, très grosse. Les dernières, elles étaient, on n'en trouve même pas dans le commerce, énormes et très sucrées.
D'accord. Alors dites, moi j'ai juste une interrogation. L'année dernière, ou les années d'avant, vous n'aviez pas remarqué de temps en temps une branche qui séchait? On se dit, tiens, celle-là, je vais l'enlever. De façon un peu aléatoire sur la plante?
Je sais pas, mon mari m'a dit que de temps en temps, il coupait une branche.
Oui, bon.
Mais généralement, il désinfecte son outil avant.
Oui, parce que... non. Alors, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, hein, malheureusement. Le feuillage, même l'année dernière, ne devait pas... Je parle pas de l'ensemble de la plante, mais certaines parties de la plante devaient avoir une teinte de feuillage vert un peu triste. On dit que c'est vert éthanisé, c'est-à-dire c'est un vert qui partirait un peu vert gris, brillant, bizarre. Certainement, il y avait quelques branches comme ça. Alors, il est atteint d'une maladie, vous ne pourrez rien y faire, Brigitte. Ça s'appelle le plomb parasitaire du prunier. Oui. C'est une maladie qui est véhiculée par le puceron gris du prunier, qui est le puceron classique qui vient se mettre sur nos pruniers.
Oui.
Au mois de juin, qui enroule les feuilles, qui déforme les nouvelles pousses, etc. Oui. Et quelquefois, un de ces pucerons trimballe une maladie qui s'appelle le fameux plomb parasitaire. À partir du moment où la plante a été piquée et inoculée par cette maladie, la maladie, elle n'est pas spectaculaire. C'est-à-dire qu'elle va mettre 3 ans, 4 ans, mais lentement mais sûrement, elle va détruire le plant. Alors, une première partie d'un côté, une deuxième partie, il y a un morceau qui semble encore survivre, et puis on se rend compte que ce morceau qui semble survivre, il va dégénérer pour finir par ne plus rien faire du tout. Alors, aucun espoir de guérison, c'est pas la peine de lui faire quoi que ce soit. Il va falloir évidemment qu'il soit rabattu, taillé, brûlé, tous les déchets, il faudra ou les emballer. Je crois qu'on n'a plus le droit de brûler maintenant, il faut emmener en déchetterie, mais enfin, là on fait pas un cadeau aux personnes qui vont récupérer le compost de déchetterie, parce qu'ils récupèrent le bébé, et surtout la souche arrachée, il faudra en planter un autre. Rappelez-vous juste d'une chose, c'est que Mirabelle sol n'est pas toujours 100% auto-fertile, c'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait un autre prunier pollinisateur pas loin. Moi, je vous encouragerais à aller voir un vrai pépiniériste fruitier dans votre secteur. Hein, en regardant sur Internet, on trouve toujours quelqu'un qui est un multiplicateur pour que vous ayez vraiment la variété qui correspond le mieux à votre secteur géographique. Donc ça, ce sera pour l'automne prochain, voilà, de toute façon. Mais là, les choses sont mal engagées. Plomb parasitaire du prunier.
Voilà, Brigitte, on vous souhaite un bon dimanche à Chancelade. Une dernière question pour vous dans 3 minutes, Jean-Louis. D'ici là, quelqu'un qui a 4000 concerts derrière lui à travers plus de 80 pays à ses côtés, quelqu'un qui en a forcément un peu moins quand on est à côté d'Elton John.
C'est
Dua Lipa, en effet. Une nouvelle fois gagné. Il est fortiche quand même, le garçon.
Trop fort.
Avec Dua Lipa aux côtés d'Elton John.
Le dimanche, on jardine sur France Bleu Périgord.
Nous sommes pris par le temps, mais nous allons faire vite. Jean-Louis, nous sommes à Sarlat. Brigitte, bonjour. Vous avez un massif en pente. Quel est votre problème, Brigitte?
Eh bien, voilà, oui, donc, bonjour. Donc, j'ai un massif en pente. Enfin, on a mis des fleurs récemment. On a reçu beaucoup de fleurs, donc on les a plantées dans le jardin. Et c'est en pente. Et après, on a mis du BRF, apparemment, on m'a dit. C'est... comme du pain mais en morceaux là.
Mmh. Oui.
Et après je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait mettre tout autour de ce massif parce que ça a tendance à s'éparpiller, il doit y avoir des bêtes qui viennent dans la nuit.
Non, oui, alors il y a des bêtes qui viennent dans la nuit. Le prochain orage un peu sérieux avec une belle précipitation, ça va peut-être bien finir tout sur l'allée du parking ou sur la pelouse. Oui, alors la seule solution, c'est qu'il aurait d'abord, avant de mettre le BRF, il aurait fallu mettre des petites bordures à droite à gauche qui auraient été installées sur des piquets en acacia qui vont pas pourrir, de façon à limiter le lessivage, on va dire, le ruissellement de ce BRF. Comme c'est en pente, le BRF, il va pas pouvoir tenir tout seul. Donc, il aurait fallu, c'est encore possible maintenant, mettre des petites bordures. Vous allez en magasin, vous achetez ce qu'on appelle des marquants acacia, ça coûte une misère, c'est des petits piquets acacia qui sont faciles à installer, et vous venez visser vos bordures, le BRF est remis, et au moins, ça va calmer la dégringolade de ce BRF. Vous aurez toujours des oiseaux ou des merles qui vont venir chiquer ce qui se passe en dessous, mais un jour, il va y avoir un bel orage avec une grosse précipitation, et là, vous aurez tout sur la pelouse. Donc là, les choses ont été faites un peu à l'envers. Il aurait fallu mettre d'abord des bordures et le BRF après.
Voilà, Brigitte, on s'y remet. Merci pour vos bons conseils, Jean-Louis. Oui. Passez un excellent dimanche.
Oui, en protégeant un petit peu les végétaux, parce que demain, après-demain, ça va piquer un petit peu le matin, je crois bien.
Et oui, je crois bien, oui. Et puis, à vous retrouver dimanche prochain, bien vous serez aux côtés d'Arnaud Decroix.
D'accord.
Allez, bientôt.
Bonne semaine.
On jardine le dimanche sur France Bleu Périgord, avec les menuiseries Segui, portes et fenêtres fabriquées ici, installées par nos partenaires menuisiers. Rejoignez-nous sur menuiserie-segui.fr.